D'abord dire que le samedi 2 juillet, de 17h30 à 23h, à Agutz, dans le Tarn, il y aura un hommage à l'œuvre de Yves Rouquet. Yves Rouquet. Au théâtre de verdure d'Agutz, dans le Tarn, il y aura des lectures, il y aura des contes, des chroniques, des poèmes chantés, des expositions, du théâtre et même une projection. Alors je vous invite à rendre cet hommage à ce poète magnifique qu'a été Yves Rouquet et de vous rendre donc à Agutz dans le Tarn. Vous aurez des renseignements sur l'association Nouveau Théâtre de la Vidalbade, 17 route de Mouzens, 41 470, à Agutz. Nous le mettrons en ligne sur notre site les-poètes.fr. Voilà pour l'événement du samedi 2 juillet. Alors je voulais simplement aussi vous signaler deux publications. C'est un peu arbitraire sur la dizaine de publications que nous avons reçues cette semaine, mais je tiens à celle-ci. Il s'agit de Marie-Josée Christian, qui a fait paraître, entre-temps précédé de Temps composé, avec des illustrations de Marc Bernold dans la nouvelle édition, aux éditions Sauvage, collection Phoenix. Alors Marie-Josée Christian, pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est née en 1957 dans la Cornouaille morbihanaise. Elle a fondé la revue annuelle Spéret de Gouès, l'esprit sauvage, donc en breton. En 1991, elle a fondé ça. Et elle en est la responsable de rédaction. Nous avons mis d'ailleurs sur notre site les-fr le bulletin d'abonnement et toutes les informations sur cette revue annuelle. Donc, avis aux amateurs si vous voulez adresser des textes. Alors Marie-Josée Christian, elle est poète et critique, elle est traduite en plusieurs langues, elle présente dans une trentaine d'anthologies et d'ouvrages collectifs, et surtout elle est lauréate du prix Xavier Graal pour l'ensemble de son œuvre. Donc ses principaux ouvrages sont Lascaux et autres sanctuaires chez Jacques André, éditeur, Conversation de l'arbre et du vent chez Tertium Édition, Les extraits du temps, qui est le prix des Bretons de Paris, les éditions Sauvages, Aspect du canal dans les éditions Sacamo, et puis Petite note d'amertume, les éditions Sauvages, toujours, et Quand la nuit voit le jour, Tertium Édition. Rejetant l'opposition désuète entre la réalité extérieure et la réalité intérieure, Marie-Josée Christian nous révèle le monde dans sa vérité intrinsèque. Le goût du passage du temps nous rappelle que la mémoire est une création humaine et l'homme une création de la mémoire, que tout dualisme finit par se résoudre dans cet entretemps qu'elle nous propose en ces pages donc de ce livre. Un petit extrait, donc. Et dans la dédicace, elle dit entre-temps le lien par excellence du poème. Elle vit à Quimper. Il y a une citation de Saint-Paul Roux. Le vrai poème, ce n'est pas un simple, mais un composé. À l'écart du rivage, l'air vibre sur les landes, imprégné de la pâleur du sel. Le souffle et la lumière se prolongent en frémissement. L'œil scrute, ouvert aux étendues, qu'il retenait en lui, il voit. La nuit déserte l'ultime équinoxe. L'envol pointu des corbeaux perfore les horizons qui blanchissent. Le remous pâle des astres froisse les joncs fragiles et sculpte le silence. Un monde s'élance et renoue avec soi. Marie-Josée et Christian, entre-temps, précédé de Temps composé, et puis également Marie-Josée Christian, Petite note d'amertume, avec une préface de Claire Fourier. C'est toujours aux éditions Sauvages. Alors là, de quoi s'agit-il? Avec un clin d'œil au syllogisme de l'amertume de Sioran, Marie-Josée et Christian composent dans ce livre, sous forme de fragments brefs et acérés, une suite de réflexions et pensées, parfois proches de l'aphorisme, qui s'inscrivent comme des jalons nécessaires sur son itinéraire. J'avoue avoir été très interpellé par ce qu'elle disait. Une bonne mise en page ne se remarque pas, elle ne laisse voir que le texte. Il est habituel d'entendre dire que quand on donne, on reçoit en retour. Rien n'est moins sûr. Il y a dans l'amour effréné de la vie quelque chose de morbide. Ce n'est pas parce qu'on est en vie qu'on est vivant. J'ai parfois l'impression de traverser la vie comme un fantôme. L'œuvre n'est pas un bien comme un autre pouvant être transmis en héritage, comme les biens matériels. Les éditeurs n'ont aucun intérêt à publier un auteur décédé, sauf si celui-ci est renommé et suscite toujours un large engouement, puisqu'il ne pourra pas participer à la promotion de son ouvrage, incontournable de nos jours. Une œuvre ne devrait jamais être suspendue au bon vouloir d'une seule personne. Les auteurs dont l'œuvre semble s'en sortir le mieux sont ceux qui ont eu la clairvoyance de la remettre de leur vivant à un collectif d'amis et de connaisseurs prêts à veiller sur elle et à la défendre. Le poème fait sens, mais n'a pas de message à délivrer. La poésie n'a pas divulgué, au contraire, elle a préservé, a gardé secret pour ceux qui sauront découvrir. Le vieil adage affirme qu'il n'y a que la vérité qui blesse. Pourtant, les blessures provoquées par les propos injustes et la mauvaise foi d'être cher sont des plus vives et profondes que je connaisse. Et puis pour finir, je n'aime pas le mot « recueil » pour désigner tout ouvrage de poésie. Il sous-entend que l'auteur a recueilli ses poèmes dans l'ordre chronologique de leur écriture. Or, dans la plupart des ouvrages poétiques authentiques, il n'en est rien. Leur architecture est organisée, composée, structurée. Voilà, je crois que je suis tout à fait en accord avec ce qu'elle dit sur ce mot de recueil que l'on emploie, c'est vrai. Mais en fait, ce sont des livres. La poésie est une lecture polysémique, mais malgré tout, que de contresens quand le lecteur se met à imaginer ce que l'auteur a voulu dire. Marie-Josée Christian, petite note d'amertume. Et pour finir, un livre paru chez Gallimard, qui vient de paraître chez Gallimard, Nikolaï Oleinikov, un poète fusillé, vers choisi. C'est une édition bilingue traduite du russe et préfacée par Anne de Pourvourville, donc publiée chez Gallimard. Nikola Makarovitch Oleinikov est né le 23 juillet 1898 à Kamenskaya. Passionné de poésie et de mathématiques, auteur de nombreux récits pour la jeunesse, Oleinikov est arrêté le 20 juillet 1937. Accusé de participation à une organisation trotskiste, il est fusillé le 24 novembre 1937 et son œuvre poétique promise à l'oubli. On enterra son corps quelque part dans un terrain vague. Puis on déporta sa veuve en Bakshikiri. Nikolaï Makarovitch Oleinikov ne fut officiellement réhabilité que 20 ans plus tard et sa poésie redécouverte à la fin du siècle dernier. Pour nous, lecteurs, ce n'est pas clair. Pour quelles raisons ses artères sont plus solides qu'un pot de pierre et comment elle a fait pour garder sa beauté? C'est parce que cette morte réputée du végétarisme, le champion, n'avait pas un seul vibrion et qu'elle était passée aux fruits dans l'alimentation. Si tu veux être épanoui, tu dois ne manger que des fruits, des prunes, des pommes, des fraises, des bois, ou des mûres sauvages ou des noix, demeure semblable aux papillons qui restent sains, nourris de jus. Essaie d'effacer du menu gélinotes et gallinacées rôti de porc et fricassé, pas de boisson alcoolisée. Le matin, jette ce fichu lait d'orange ton foie illuminant, t'auras une foule de soupirants, et quand ton drapeau enfin hissera, comme un jeune coq, je courrai derrière toi. Voilà. Donc je pense que nous ferons peut-être une émission sur ce poète. Envoie pour fustiger le port des vêtements. Ce qui m'étonne et met mon cœur en fête, c'est la parure de la nature jolie. La brise qui comme une mouche volette, et les étoiles qui comme des poissons brillent, mais plus intéressante que tous les diptères, mais plus charmante que tous les poissons, ma Lise, et de loin la plus charmante, elle est belle comme une vipère. Prends vite ma main dans la tienne, et penche ta tête vers la mienne, croisant, vipère, un responsable du parti, je suis à toi dans toutes tes parties. Nous sommes gênés par nos oripeaux, jetons les pour faire peur aux coquins, que craignons-nous? D'aspect nous sommes sains, la finesse de nos torses nous rapporte des gerfaux. Au sage qui vit dans l'observation, la nature parle, claires sont ses allusions. Si le petit bourgeois circule en pantalon, le rossignol, lui, s'envole sans caleçon. Voilà le ton de Nikolaï Oleïnikov, un poète fusillé, à lire chez Gallimard. Et maintenant, nous allons rejoindre J'aime Sacré. J'aime Sacré, bonsoir.
Bonsoir, Christian.
Merci beaucoup, J'aime, d'être avec nous pour la deuxième fois.
Oui, ben c'est mon plaisir.
C'est surtout notre plaisir. Alors, J'aime Sacré, nous allons parler aujourd'hui essentiellement de l'apparition chez Gallimard, dans cette collection prestigieuse, Poésie Gallimard, collection de poche et NRF, de ce livre, Figure qui bouge un peu et autres poèmes, avec une préface d'Antoine Aymaz. Alors on va quand même rappeler, J'aime Sacré, que vous êtes né en 1939 à la ferme familiale en Vendée, dans le village de Cogou, à Saint-Hilaire-des-Loges, que vous êtes allé à l'école primaire de Coulonges-sur-Lotise dans les Deux-Sèvres, puis que vous avez été élève au collège François Viette à Fontenay-le-Comte et à l'école normale instituteur de Parthenay. Instituteur puis instituteur itinérant agricole avant votre départ aux États-Unis en 1965, après votre mariage. Vous avez obtenu un doctorat américain au Boston College à Boston. Vous avez suivi les séminaires de Grémas lors des séjours en France, la direction de programme de Junior Year à Borod, et les années sabbatiques. Vous avez été enseignant en langue et littérature française dans l'université américaine Smith College de 1972 à 2001. Et vous avez participé au comité de rédaction de la revue Oracle, puis de la revue Triage aux éditions Tarabuste. Vous avez obtenu des prix de poésie, le prix Broquette Gonin de l'Académie française en 1972, le prix Obsidiane en 1983, le prix Apollinaire en 1988, le prix Antonio Vicaro en 1999, le prix Max Jacob en 2010. Vous avez effectué de nombreux séjours ou voyages en Europe, en Italie, en Espagne et Suisse, au Maroc, en Tunisie et à travers les États-Unis, et vous vivez actuellement chez nous, donc dans notre région, près de Montpellier. Alors nous avons, il y a quelques semaines, eu le plaisir de consacrer une émission de Les Poètes à l'ensemble de votre œuvre, et donc nous rappelons que cette émission est toujours disponible sur notre site les-poètes.fr à la rubrique pour écouter les émissions. Mais cette émission avait été en définitive bien inachevée parce que nous n'avions pas eu le temps de parler de ce livre qui est quand même un livre essentiel, Figure qui bouge un peu et autres poèmes. Alors dans ce livre, Antoine Aymaz vous a fait une préface magnifique, et dans cette préface il saisit toute la puissance de votre écriture. Une poésie de plein pied, complexe, mais pas compliquée dans son abord. Une poésie qui impose une langue qui n'exclut pas, dit-il, qui accueille d'abord. C'est un exercice de générosité particulièrement difficile, mais parfaitement réussi, comme en atteste Antoine Emmaüs. Alors ma question, J'aime sacré, c'est comment travaillez-vous? Comment naît le poème? Comment se forme l'écriture? La poésie n'est pas un simple épanchement intime, comme le souligne Antoine Emmaüs. Elle est œuvre d'art. Et comment se fabrique cette œuvre?
Oui, mais c'est une question bien vaste et il serait assez difficile d'y répondre très précisément. Vous parliez à l'instant de... Alors, je pense effectivement que la poésie n'est pas un simple épanchement intime, mais je tiens quand même, à chaque fois que j'écris, à m'appuyer sur des éléments de l'expérience vécue, avec les choses du monde, avec les gens, avec les pays visités, avec les langues, etc. Voilà. Vous parliez tout à l'heure de recueil, et effectivement, j'aime bien travailler en pensant à un livre qui va se faire, et non pas à un recueil. Un livre qui va se construire, évidemment, j'en ai jamais une idée très précise à l'avance. Il va pouvoir se construire autour d'un mot. Par exemple, j'ai un titre qui est « On regarde un âne ». Voyez. Ou alors ça peut être autour d'une notion, l'amitié, ou autour d'un pays, le Maroc, les États-Unis, etc. Hein, et donc, pendant un certain temps, tous les poèmes que j'écris viennent s'agglomérer autour de ce vague projet d'écriture d'un livre. Et tout à fait à la fin, quand je recompose le livre avec les poèmes qui sont venus, c'est comme si j'écrivais un dernier poème, en fait. Parce que la composition du livre, c'est un petit peu comme la composition d'un seul poème. Voilà. Et pour vous donner une idée, un petit peu, plutôt que par du bavardage, de comment j'écris un poème, je vais vous lire deux petits textes parus dans Un paradis de poussière, qui est un autre livre paru chez André Dimanche, et qui s'intitule ce petit ensemble « Un brouillon continué ». On est content à cause qu'on est arrivé à un premier état, comme on dit du poème, un brouillon nettoyé. On avance mal dans un brouillon. Parmi ces ratures, les bouts de pistes abandonnées, renvois et gribouillis dans ses marges, un peu comme perdu dans une campagne pas cultivée. La grande herbe cassée, les épines, faut te faire un chemin dans ce qui n'a pas de forme. À la fin, voilà ce chemin. On y revient, on l'entretient. Le problème, c'est que bientôt, on n'y reconnaît plus rien, on l'a trop nettoyé. Quand le poème est terminé, se retrouve-t-on pas là où tout a commencé? L'histoire de la poésie dans le monde entier, comme un brouillon continué. Poème. Quel autre nom conviendrait mieux à sa façon de pas durer longtemps et de recommencer toujours autrement, malgré que jamais rien de nouveau? Les vieilles peaux qu'on a quittées sont autant d'énigmes perdues, et les peaux neuves, l'avenir, déjà les déchire. Le poème, peau de mon cul, celle de mon âme tout autant, la vieille peau neuve du monde. Voilà, je ne sais pas si ça donne une idée de comment j'écris, mais oui. Voilà, j'ai essayé en tous les cas.
Alors, la dernière émission que nous avions faite, nous avons insisté là-dessus sur cette poésie du vécu. Hein,
Pardon ?
Je dis, la dernière émission que nous avons faite avec vous, effectivement, nous avons bien enregistré que ce qui importait chez vous, c'est d'avoir une poésie du vécu.
Oui.
Que le vécu était primordial.
Oui.
Voilà. La clé, le départ de toute création, si j'ai bien compris.
En tous les cas, pour moi.
Oui, hein, bien sûr, c'est de vous dont je parle. Oui, oui, oui.
Oui, oui. Oui, c'est ça, hein, le départ, mais évidemment qui nous échappe et qui disparaît en partie dans le poème.
Oui.
Enfin, qui disparaît. Je peux espérer qu'il y a quand même un rapport qui reste entre les mots qui s'écrivent et cette expérience qu'on a eue ou qu'on a au moment d'écrire. Hein, c'est pas forcément du vécu passé.
Il y a aussi une part réflexive, hein, comme le souligne aussi, je crois, Antoine Aymas aussi dans cette poésie qui est inséparable quand même du vécu. C'est-à-dire qu'en même temps que l'on décrit le vécu, on met en marche une réflexion.
Oui.
C'est et aussi un questionnement.
Oui. Oui, effectivement, parce que ne serait-ce justement que cette problématique de cette sensation qu'on a plutôt à la fois d'une sorte de présence de ce vécu et de la quasi-impossibilité de le dire et de dire autre chose qu'on n'avait pas prévu. Donc, toute cette espèce de mystère assez énigmatique pose des questions et vous emmène très rapidement vers la réflexion sur la capacité qu'un poème a de dire quelque chose ou pas, d'être en relation avec quelque chose d'autre ou pas.
On va vous demander d'illustrer, comme vous venez de le faire, par la lecture d'un poème.
Oui, bon, je pourrais le faire par exemple à propos du paysage. Hein, chaque fois que j'ai un paysage dont je me saisis, les mots que me donne le paysage tout de suite me conduisent vers de la réflexion. Alors voilà par exemple un début de paysage. Alors, voilà, c'est un poème sur Paris. Hein. Il pleut sur Paris, ça pourrait faire la première ligne d'un poème dans une façon vieillotte. Après ça, on parlerait des toits, des bruits, comme minutieusement arrangés. Qu'on dirait, je sais pas, une machine à coudre, un travail continu. Voilà qu'on est un peu comme dans un grenier, c'est gris, ça va être la saison d'égrener les maïs ou de compter par poignée de 25 les feuilles d'une récolte de tabac. On fait le lien de la manoque avec une dernière feuille, ça continue, la pluie. Tout à l'heure j'étais dans l'espace de l'avenue de Breteuil avec le vent et toutes les feuilles de platane, milliers d'enfances rassemblées, roulées, frileuses dans le vert des pelouses. Au fond, l'hôtel des Invalides semblait comme un gigantesque monument aux morts, presque vivant sur le fond noir des nuées. On aurait attendu là que quelque chose arrive. En définitive, c'est tout simplement ce bruit persistant de la pluie. Sur les toits, maintenant que je suis à ma table, sur Paris en somme, assez comme un gros village, le travail qu'on y fait, ça ressemble dans cette pluie régulière à du travail autrefois, ça n'a pas de fin. Voilà, donc vous voyez comme le paysage effectivement m'emmène d'abord d'un paysage dans un autre, d'images dans une réflexion, de réflexions dans des sentiments qui tout d'un coup sont là, etc. Voilà comment se fait un peu le poème pour moi.
On voit bien ça dans Figure qui bouge un peu. Hein.
C'est ça, oui.
Oui. Est-ce qu'on peut vous demander de nous lire une de ces figures, peut-être ?
En plus de celle-là que je viens de lire.
Oui.
Oui. Alors, je vais en lire une autre, 153. Voilà. Alors, cette fois-ci, ce sera l'absence de paysage. Ah là là. Si aucun paysage n'est là, ça arrive. Il est tard et dans la nuit qui devient silencieuse, on entend comme de la musique le blanc du papier ou bien c'est la qualité particulière des volumes de la maison qui fait cette espèce de pesanteur sonore dans l'oreille. Une rêverie se défait ou se construit comme on voudra en mots alors que pourtant des paysages, il y en a d'immenses pas loin, et qui s'en vont dans les endroits vraiment solitaires de l'Amérique, un parking mal entretenu à New York, ou ce coin de la Monument Valley avec une cabane d'Indiens. L'été, les quelques touristes sont partis maintenant. Est-ce que pendant que personne les voit, est-ce que ça disparaît, ou que plutôt ça respire plus grand, les paysages?
Alors, j'ai tellement plaisir à vous entendre dire ces figures. On sent aussi, au ton, que vous avez été un vrai voyageur.
Oui, j'étais un voyageur un peu par hasard. Bon, j'aime bien voyager, mais aux États-Unis, c'est mon épouse qui m'y a emmené. Après, je ne suis pas un voyageur qui accumule les voyages. J'aime bien retourner dans les endroits où je suis déjà allé, comme au Maroc, comme en Italie. Un premier voyage, c'est toujours si approximatif. On est toujours dans l'incompréhension immédiate des choses. Donc il faut vraiment y retourner, fréquenter les gens, les paysages, la langue éventuellement, pour que finalement quand même l'endroit qu'on visite devienne aussi familier, autant que le pays natal peut vous être étranger.
Alors vous faites très plaisir quand je vous entends dire ça. Parce que moi aussi je suis tout à fait pareil, c'est-à-dire que j'ai besoin de revenir et que je reviens dans les lieux que j'ai traversés et qui m'ont interpellé, voire accaparé. Et je ne m'ennuie jamais de revenir dans ces lieux. Et il me semble que plus j'y reviens et plus j'apprends à les connaître et plus je les découvre.
Oui. Oui, en effet. Et une chose importante aussi, c'est d'être, par exemple, dans un pays avec quelqu'un du pays.
Oui, bien sûr.
Vous voyez, par exemple, les États-Unis m'ont certainement parlé autrement parce que j'y vivais avec mon épouse qui est américaine.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Et au Maroc, j'ai connu le pays autrement parce que je l'ai beaucoup visité avec un ami que j'ai là-bas.
Bien sûr. Vous entrez dans l'intimité du pays là.
Dans l'intimité, peut-être pas vraiment, mais en tous les cas, dans une certaine familiarité, quoi. Oui. J'y entre avec des sentiments que j'ai pour les gens avec qui je suis.
Oui. Alors, il y a ça, mais il y a également... Alors, moi, c'est quelque chose que je ressens aussi, ce que vous dites, hein, puisque, bon, par exemple, je vais en Andalousie, mais ma femme est andalouse, donc... on a retrouvé la famille de sa mère, etc. Donc, on remonte 70 ans en arrière. Mm-hmm. Mais en même temps, il y a aussi, pour moi, il y a aussi, je dirais, la littérature qui est derrière. C'est-à-dire les gens qui ont parlé déjà de ce pays, par exemple en Bretagne, Armand Robin, Max Jacob, etc. C'est inséparable. Les paysages et les lieux sont inséparables aussi de ces paroles qu'on a entendues.
Oui, c'est vrai. Hein? Oui, oui. Oui, des paroles et de la peinture aussi,
oui,
par exemple.
Oui, bien sûr, bien sûr. On peut vous demander de poursuivre peut-être dans la lecture de vos poèmes.
Oui, sur un motif particulier ou pas? Non.
Écoutez, ce que vous avez choisi.
Oui, ben, j'avais choisi, après, comme vous m'aviez interrogé un petit peu, j'avais fini la dernière émission sur des poèmes d'une petite fille silencieuse, oui, qui fait partie de ce livre. Voilà, et donc, je vais vous lire quelques-uns de ces poèmes.
Hein. On vous écoute.
La beauté d'un jour de juillet. Grand soleil est bleu mais tempéré par des feuillages qui font de l'ombre à la maison tranquille où j'écris. Telle beauté se nourrit de beaucoup de temps passé, de choses qui ont changé, de gens qu'on oublie, mais l'herbe de la pelouse verdit. Je ne verrai plus, assise à côté des iris sans fleurs, une enfant qui regarde un animal familier. Est-ce qu'un poème ressemble à la verte indifférence de l'herbe, ou s'il peut être aussi comme un geste pour voir? Je continue. Le beau temps de l'automne fait qu'on voudrait, à travers la qualité fraîche et bleue de l'air et parmi les volumes de feuillage qui bougent sobrement, lenteur, et la saison qui scintille, installer le théâtre des mots qui conviendrait à la parution dans ce paysage recommencé tous les automnes, de tes joues d'enfant, de ton pas qui a franchi le temps. Évidemment, c'est bien parler de façon précise qu'il faudrait dans ces poèmes, dire pour qu'on les voit, la couleur châtaigne et renard de tes cheveux, ta joue, l'éclat de ta jambe d'enfant leste. Mais cela doit se mêler à des mots qu'on choisit mal dans le moment qu'ils arrivent, avec des effets surprenants, sans égard pour rien. Dans l'arrangement que j'en fais et le souvenir, par exemple, de ton visage comme un automne, est-ce qu'au moins l'effort d'écrire installe l'extrémité visible d'une métaphore dont l'autre tiendrait peut-être à de grands arbres, à la musique en allée de toi? Au moment de penser à toi, le poème t'oublie en cet endroit de mots, que c'est peut-être encore mourir. Quelqu'un comprend que dire ou pleurer, ce n'est rien qui soit l'animation de ton visage silencieux. Te nommer pourtant dans ce théâtre des mots, c'est peut-être toucher à ton dernier geste. Donne-moi la main. Seulement rester un peu après la mort, dans le corps et la pensée des amis, pourvu qu'ils puissent continuer d'être du bonheur où je serai, juste un peu de couleur douce à des rêves secrets qui n'auront jamais été des gestes vrais. Aide-moi, que disait la voix, tellement seule. Aide-moi, et tellement de confiance qui a peur. Le bleu du ciel était sans fond. Voilà, ça reprend un petit peu les idées, les choses dont on a parlé là, juste avant, quoi.
Alors, c'est une suite de poèmes qui est magnifique dans l'écriture, mais bouleversant. Antoine Maz en parle très bien de ça. Il dit « Aimer est central chez Sacré dans la relation à l'autre.
Oui.
On le voit à l'évidence dans Petite fille, mais tout autant dans Figure, d'ailleurs, il dit aussi. Hein. Il suffirait pour le montrer d'étudier le motif du cœur. Les sentiments négatifs sont aussi présents, la colère, la révolte, la peur, la mélancolie,
oui,
mais sur un mode mineur. Ils sont fréquemment notés, mais pas développés. » Ils sont fréquemment nommés, mais pas notés, mais pas développés.
Voilà, oui.
C'est ce que dit Emmaüs. Alors, dans ce merveilleux livre, vous avez évité, qui est sur un sujet qui est un sujet tragique, vous avez évité le pathos. Hein. Vous avez puisé la force de l'émotion dans la pudeur, sans toutefois occulter l'insupportable de la trivialité quotidienne de cette petite fille malade. Et paradoxalement, c'est comme ça que vous avez porté à son apogée l'effet de tension quand même de tous ces poèmes.
Oui, c'est une chose très difficile, ça. Bon, là, il s'agit de poèmes de deuil, en quelque sorte, hein, autour du décès d'une petite fille et de sa maladie d'abord. Et effectivement, c'est écrire autour du malheur qui nous entoure et toujours quelque chose de frustrant, parce que très rapidement on s'aperçoit qu'on est en train de prendre plaisir à écrire. Vous voyez, et donc c'est un peu scandaleux d'une certaine façon de se donner ce plaisir d'écrire à propos du malheur de quelqu'un d'autre. Ça pose vraiment des questions difficiles et des problèmes d'écriture pas trop simples non plus. Beaucoup de choses sont comme cela. Par exemple aussi, quand on essaye d'utiliser dans un poème l'obscénité, par exemple, voyez, on commence avec des mots très crus, des choses comme ça, puis on s'aperçoit que tout d'un coup, avec ces mots crus, ça ne va pas du tout, et on les efface et vient autre chose, et on s'aperçoit que la retenue, en fait, parle beaucoup plus fortement qu'une sorte de développement de ce qu'on avait cru d'abord plus fort et qui n'était en fait que cliché ou que mot convenu. Voilà, hein, c'est écrire et n'est jamais une. Enfin, pour moi, écrire un poème, c'est toujours dans le plaisir. Hein. Je n'écris jamais de poème dans la douleur complète ou le tragique ou rien comme ça. Hein, mais c'est aussi en même temps à cause justement que c'est toujours dans le plaisir, dans la difficulté.
Ce plaisir peut être mêlé à ce sentiment de culpabilité dont vous avez parlé tout à l'heure, mais en même temps, est-ce que ce n'est pas aussi une façon de retrouver une complicité, une connivence peut-être ?
Oui, parce qu'on peut, parce qu'effectivement, mon plaisir en... D'une certaine façon, si on veut, mon plaisir en écrivant une petite fille silencieuse, c'est un peu le plaisir que la petite fille avait quand elle courait sur des pelouses ou dans les prés. Donc effectivement, il y a en même temps aussi, on peut aussi ne pas renier complètement ce plaisir et l'accepter.
Quand on lit ce texte, on est loin de cette posture tragique du romantisme. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ?
Oui, j'aime bien, il y a les poètes romantiques, c'est quand même Nerval, Baudelaire, oui. Rimbaud après, j'aime bien les poètes romantiques et leur force d'écriture qui est indéniable, même celle aussi bien sûr de Hugo, c'est sûr que la poésie romantique a été une poésie qui a porté au pinacle la fonction de poète, la poésie elle-même comme quelque chose qui était une sorte de possibilité de délivrance d'ici-bas ou du malheur du monde, hein, et ce n'est pas du tout mon sentiment, hein. Je pense que la poésie est simplement le poème plutôt que la poésie, que le poème est simplement une autre façon de vivre en écrivant des mots et qu'elle n'a peut-être rien de plus glorieux que le fait de fabriquer des sabots ou de travailler au bureau ou dans les champs tous les jours. Hein.
Vous aviez dit la dernière fois que vous préfériez le terme « le poème » à la poésie.
Oui.
Hein, donc là, vous réitérez, on vous suit bien, hein, dans cette pensée. Vous remettez un peu la poésie à sa juste place, mais qui est une place terriblement digne, comme toute autre chose, en définitive, tout ce que fait l'homme.
Hein. Oui, voilà, oui. Oui. Oui, hein, je pense que la poésie... j'aime pas le mot poésie parce que ça a l'air d'être un mot un peu transcendant, vous voyez, qui fait penser à un au-delà, à quelque chose d'autre, alors que le mot poème est un mot beaucoup plus matériel qui vous amène à penser une forme écrite sur du papier blanc, vous voyez, avec des mots, avec la matérialité des mots, leur ancrage sur la page, la disposition, les sonorités, le contenu de sens qu'on peut y entendre, etc. Vous voyez, donc c'est pour ça que je préfère le mot poème au mot poésie. Voilà, qu'est-ce qu'on allait dire là? Bon, alors effectivement, de remettre le poème comme ça dans sa matérialité de choses vivantes, parce que tout ce qui est matériel en général est vivant, même ce qui a l'air le plus inanimé, ça, à mon sens, ça met le poème de plein pied avec le reste de ce qui est vivant. Et c'est ça qui me fait plaisir, en fait.
J'aime sacrer votre parole poétique. On l'a entendu, est une parole d'amour, mais en même temps aussi une parole de solitude. Alors, est-ce que la première parole aide à vivre la seconde?
Oui. Oui, alors, le mot solitude est un mot qui revient beaucoup dans mes textes. Je pense que, effectivement, que les deux cèdent, c'est-à-dire que je pense qu'effectivement que d'aimer soit une personne, soit un paysage, soit une langue vous permet de supporter la solitude. Et je pense que le sentiment de solitude qui vient quand même forcément quand on écrit vous permet aussi de relativiser ce qu'est l'amour, de la même façon qu'il faut relativiser ce qu'est la poésie. Je veux dire relativiser au sens où il est nécessaire de la descendre un peu de ce faux piédestal sur lequel on la monte, et l'amour de même souvent. Voilà. Là, je peux vous donner quelques poèmes, par exemple autour de mon père. C'est un livre qui vient de paraître aux éditions La Dragonne, qui s'intitule Un effacement continué, où il est question un petit peu de solitude. Voilà, il y a trois poèmes.
On vous écoute.
Je ne suis pas allé, alors que j'étais de retour en Vendée, jusqu'au cimetière du bourg de Saint-Hilaire, où il y a ta tombe. C'est peut-être pourquoi je pense à toi, visitant plusieurs églises en de gros villages de la province d'Aragon. Dans la campagne, souvent, de petites fermes meurent dans la solitude d'un pli de pente. Je ne crois pas à des champs du ciel flamboyants, après la disparition de quiconque, après celle des choses. Les restes d'un corps dans l'enclos des morts, la nef d'une église devenue trop grande, et des ruines de murs dressées autour d'un vide intérieur dans la campagne aragonaise. Comment, ah comment tout cela fut-il vivant dans le monde? Entre Taliouin et Tansart, sur de grandes étendues de sol pas très cultivables, un lot de courtes parcelles met ensemble un tracteur en couleur forte qui laboure, et cet homme juste à côté, sans doute un endroit plus caillouteux, qui tient comme il faut l'arrière que tire sa mule. Raccourci de beaucoup de ta vie, mon père, depuis le daï pour les passages, avant que faucheuses et cheval entament leur travail, jusqu'à la grosse avancée des moissonneuses batteuses beaucoup plus tard, après des recyclages sans fin par des machines diverses. Puis les pentes sont devenues carrément pierreuses. N'empêche qu'y voilà dans un pli du paysage un ensemble d'enclos fruitiers. N'es-tu pas là, toi aussi, dans la solitude terreuse du temps, à faire vivre du verre qui me reste dans les yeux quand d'un coup je traverse de Taliouin à Kougou. Plusieurs soirs, dans un camping d'Albuquerque, après beaucoup de chaleur dans la journée, puis ces coups de vent qui tourmentent la tente vers 18h, 18h30, Je reste assis longtemps dans la nuit descendue, le ciel à l'instant du plus bel orange comme ouvert. Longtemps, des souvenirs me font penser à la solitude, et j'essaie d'imaginer quelle fut la tienne, et si je l'ai jamais perçue dans, par exemple, ton goût d'aller chasser seul, ou de blaguer juste un peu trop avec les autres, et moqueur sans précaution pour les tiens. Où donc étais-tu tranquille et toi-même? Et si dans ma rêverie, je comprends mieux tout ce temps que tu passais seul, avec les arbres du jardin ou de vieilles planches dans ton hangar. Voilà.
Vous rappelez, s'il vous plaît, le titre de ce livre?
Un effacement continué. Aux éditions de la Dragonne.
Édition de la Dragonne.
Bien. Qui vient juste de sortir.
D'accord, ça, je ne connais pas, donc nous allons lire ça bientôt. J'aime sacré, vous dites à propos de la mort, ce qu'on peut faire, c'est s'habituer seulement à la peur de la mort.
Oui.
Quelle est cette approche de la mort que vous avez?
Oui, c'est... Bon, je n'ai pas vraiment d'approche de la mort. Hein. J'ai le sentiment que la mort est là avec nous. Mais je vais vous relire quelques poèmes, là, hein, oui. Aussi, qui parlent de la mort. C'est la figure 11.
Oui.
Est-ce qu'on peut parler de la mort, pas venue encore? Des gens qu'on aime pour leur dire maintenant le silence? De ce qu'on dirait peut-être alors et parce que c'est peut-être moi qui vais mourir d'abord ou trop juste après eux, pour avoir le temps de construire quelque chose avec des mots avant. En tout cas, c'est pas simple d'imaginer que quelqu'un est mort quand il est encore vivant, même si c'est loin dans l'absence, et des gestes qu'on saurait plus comprendre malgré d'autres qu'on a connus, ou tellement près, au contraire, dans la familiarité menteuse à force, comme une odeur qu'on sent pas, une pendule qu'on dirait silencieuse. Pourtant elle marche. Est-ce que la mort c'est pareil? Cette même hésitation sans importance à la fin entre quelque chose qui serait très loin et quelque chose qui serait là. Qu'est-ce que ça veut dire s'habituer à la mort, à l'idée que la mort peut venir maintenant, je comprends mal. Même si le temps se construit dans la guerre au loin, dans un travail un peu désagréable, dans le froid, la solitude. Est-ce que c'est pas forcément mourir que ça veut dire? Oublier par exemple les autres qui meurent, la mort, comme cette pendule qu'on n'entend pas, pourtant elle marche. Ce qu'on peut faire, c'est de s'habituer seulement à la peur de la mort, je l'entends partout. Avec son rire mal fleuri, le travail qu'on fait tous les jours, le temps des faits dans la guerre et la solitude partout. Je voudrais pas mourir, pourtant ça n'a pas trop d'importance qu'on meure, certainement pas plus que la rouille et les fleurs d'une vieille maison, avec des arbres grands et beaucoup de bleu autour, ou bien pas plus que des mots trouvés dans un poème de Miloche. Je voudrais pas mourir, mais je vois bien qu'il faut dire cela, dans presque la poussière, avec des précautions de langage, tellement dérisoires, des précautions de vivant. Voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question avec ces poèmes, mais...
Ce dernier texte était dédié à Jacques Reda.
Pardon, oui, c'est ça, le dernier est dédié à Jacques Reda, oui.
Écoutez, il reste quelques minutes. J'ai tellement de plaisir à vous entendre lire vos poèmes que je vais vous demander, si vous le voulez bien, de nous lire encore quelques extraits de votre dernier livre, celui qui vient de paraître.
Oui.
Est-ce que vous voulez bien?
Bon, je vais lire un ou deux poèmes sur... Oui. sur autour de l'idée et de l'image du jardin.
Ah, oui. Hein,
parce que effectivement, il y a quelque chose de semblable entre l'écriture et le travail au jardin ou dans les champs.
Que vous pratiquez, hein. Que vous pratiquez ce travail au jardin.
Oui. Et on traverse un peu la vie comme on traverse beaucoup de jardins. Voilà, c'est un poème en prose. Le premier jardin est celui d'une enfance. Ensuite, il y a des jardins qui ont été connus et cultivés à cause de programmes scolaires que la pédagogie et le plaisir se mêlaient dedans, avec aussi de l'ennui et des résistances. Géométrie et la sonorité de l'air, rangées comme parfaitement dans le chapitre à cet effet d'un manuel agricole. La précision concrète des mots ressemble à des légumes, des fruits familiers, mais toujours qu'on y découvre un nouveau détail de forme ou de couleur, de poids encore, ou bien c'est quelque chose dans le toucher qui plaît et qui surprend. Et d'autres jardins après des voyages, sentiers minuscules et juste ce qu'il faut de fleurs et de poireaux ensemble pour occuper paisiblement et longtemps l'œil, à l'occasion la main et le pied mis au travail et la pensée. Après qu'on a été en route par le travers de paysages rapidement simplifiés, selon les courbes d'itinéraire et de circuits qui ne menaient nulle part, sauf à la fin, ont toujours un jardin, celui par exemple où la pluie fine et des graviers donnent un relief tout particulier aux rouilles des chrysanthèmes. Je continue là où je...
Oui, bien sûr, si vous pouvez, oui, bien sûr.
Alors que je trouve un autre. Le jardin, c'est toujours comme une sorte de plaisir bien habillé, un sourire, la table qui est mise. Et c'est vrai qu'on peut y manger à même, par exemple, une carotte, une feuille d'oseille. Même quand on y est à travailler et que c'est pas forcément drôle, c'est toujours comme une façon d'arranger quelque chose. Est-ce que c'est ça qui fait plaisir? Jardin comme un gendarme, un peu avec son pantalon bien tiré, si on lui touchait sa braguette. Jardin qui n'est métaphore de « pourquoi j'en peux rien dire ?» Et tout ce que voilà d'impotent, somme, phrase, mal foutue ou graissée trop, pas prendre ça pour comme quelque chose à dire, comme que je replie, déplie pour mettre quelle distance entre quoi et quoi. Ça insiste, comme un comme. À la fin, comme si, oui, ça vient, jouissance des fêtes, jardin cultivé, saccagé ou pas, c'est toujours autrement que ça paraît. On peut continuer à écrire tranquillement avec des fleurs, des toits rouges, avec aussi le cul plombé, les phrases poussées, glaireuses, quelle affaire emmerdée de plaisir, c'en est fini qu'on dit. Quand même, jardin comme un sourire, comme une paire de fesses, viens.
Continuez.
Bon, je l'ai jamais vraiment bien cultivé, mais pas non plus un total désordre. À cause d'eux, je disais, mon ignorance, et pas moyen de rien améliorer, je comprends tout mal, je retiens rien, faut toujours être à relire. Une espèce de médiocrité qui continue. De temps en temps, on dirait que c'est possible à justifier. Dès que je sais, ça reprend de plus belle, un jour le silence va venir, forcément. En fait, est-ce qu'il n'est pas déjà là? C'est, comment dire, vraiment, comme un jardin derrière des baraquements, une espèce d'endroit abandonné, on viendra même plus pour y chier à cause des herbes trop dures, des tessons, bouteilles de Coca-Cola, gravats. Un autre coin retiré du jardin. Des cabinets en planches dissimulés par des buis. L'odeur des cérémonies religieuses et ses secrets se trouvent ainsi curieusement mêlés à celle de la merde et à des tremblements du cœur. Ce qui est branlé dans la solitude, c'est l'insignifiance et le sourire qu'il y a peut-être dans le mot secret. Jardin comme un secret ou comme un poème.
Alors j'allais vous poser la question, travaillez-vous votre jardin comme un poème? Mais ce texte y a répondu.
Mais je
ne
sais pas, peut-être.
Oui. Donc vous avez réellement un jardin, ça vous...
Non, pas ici à Montpellier. Je n'ai plus qu'une maison avec une terrasse autour parce que nous voyageons beaucoup et donc un jardin, ce serait difficile à entretenir. Mais il y a quand même des verdures, des fleurs et un peu quelque chose, quoi.
Alors j'aime ça, créer avant de nous quitter. Il reste une minute là. Donc vos projets, donc il vient d'avoir la publication de ce livre, pardon, je vais vous demander de encore une fois si vous voulez bien rappeler le titre de ce livre.
Celui-ci là.
Oui, le dernier là.
Ah ben où il y a les jardins, c'est dans Figure qui bouge.
Oui,
dans
Figure,
un peu.
D'accord. Mais celui dont vous avez parlé tout à l'heure, vous avez lu le texte sur votre père.
De tout à l'heure, c'est Un effacement continué.
Un effacement continué.
Aux éditions de la Dragonne.
Éditions de la Dragonne, voilà, nous allons nous procurer ça.
Voilà, c'est la suite d'un premier livre qui était paru aux éditions de la Dragonne également, et qui s'intitulait « Portrait du Père en travers du temps ».
Ah oui, oui. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup, J'aime Sacré. Donc je rappelle également le titre de ce livre qui est disponible en poche, dans la catégorie poésie Gallimard, collection NRF, Figure qui bouge un peu et autres poèmes, avec cette magnifique préface d'Antoine Emmaz. Je crois que c'est déjà, ce livre est vraiment très, je trouve vraiment, même pour ceux qui n'auraient jamais lu du J'aime Sacré, c'est vraiment une bonne entrée en matière là.
Oui, bon, ben, ce sont trois anciens livres qui sont rassemblés là. J'ai voulu plutôt, je n'aime pas trop les anthologies, donc j'ai voulu rassembler un peu un moment d'écriture. Et ce sont trois livres qui ont été écrits un peu à la suite les uns des autres.
Oui, mais on sent une unité dans ce livre.
Comment ?
On sent une unité dans ce livre.
Je l'espère, oui.
Oui, oui. Oui. Merci beaucoup.
Ben, c'est moi qui vous remercie. Voilà.
Et à très bientôt.
Oui, merci beaucoup. Au revoir, Christian Saint-Paul.
Au revoir. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons, comme d'habitude, à la semaine prochaine, à 10h.